Bergton tendit la main à Paloma et ils ressortirent de la grotte des demoiselles. Ils poussèrent un peu plus loin sur le chemin pour se retrouver face à l'imposante aiguille. Paloma resta un moment silencieuse devant la majesté du bloc de calcaire.
Quelle imagination tout de même! Aller chercher que cette aiguille est creuse!
Certes, certes.
Bergton semblait pensif.
Savez-vous, ma belle, que Claude Monet a peint un tableau qu'il a baptisé l'aiguille creuse?
Non, mais cela n'a rien d'étonnant, je pense. Le site et le roman sont célèbres.
Vous n'avez pas compris. Maurice Leblanc a écrit son roman en 1909. Mais Claude Monet a peint son tableau en 1883. Il a donc sous-entendu que l'aiguille était creuse un quart de siècle avant Maurice Leblanc.
Paloma resta incrédule. Elle fixait le colossal bloc de calcaire. Elle s'approcha encore un peu du gouffre.
C'est vrai?
Vous pouvez vérifier au musée d'Orsay à Paris. Mais ce n'est pas tout. Claude Monet a également peint le château de Puy-Guillem. Ce nom ne vous dit rien, mais sachez que ce château de Puy-Guillem a directement inspiré le château de l'Aiguille inventé par Maurice Leblanc, celui prétendument construit par Louis XIV pour détourner l'attention d'Étretat.
Paloma fut saisie d'un léger vertige. La falaise abrupte. Les révélations. Tout ceci des années avant que Maurice Leblanc n'écrive son roman?
Oui. Plus de 20 ans.
Sachez enfin que Claude Monet fréquenta très souvent Étretat. Il était ami intime avec Guy de Maupassant qui habitait également Étretat. Guy de Maupassant écrivit d'ailleurs un poème baptisé « La légende de la grotte des demoiselles ». Paloma fixait les vagues qui venaient s'écraser sur l'aiguille, une centaine de mètres en contrebas, se laissant bercer par le mystère des lieux. Au site grandiose s'ajoutaient tous ces incroyables mystères.
Et que raconte cette légende?
Interrogea Paloma avec une curiosité non dissimulée.
L'histoire d'une jeune fille ingénue qui, voulant rejoindre son fiancé dans la grotte, glissa de la falaise, tomba dans l'abîme et dont le fantôme hante encore ces lieux. Mais les passionnés recherchent également depuis longtemps un double sens.
Un double sens?
Qui sait? Mais votre romantisme préférera sans doute le premier.
Le professeur commença à réciter les vers de Maupassant.
C'est une grotte perdue, suspendue entre le ciel et les mers, une demeure ignorée séparée du reste de l'univers. Jadis, plus d'une gentille jeune fille y vint voir son amoureux. On dit que cette retraite, si discrète, a caché bien des heureux.
Bercée par les paroles du professeur, Paloma se pencha elle aussi vers la pique. Le professeur s'arrêta et, d'un mouvement vif, saisit fermement la jeune étudiante par le bras. Elle se retourna, surprise. Roland Bergton trouva doublement agréable le contact du bras nu et chaud de la jeune femme sur sa paume et le regard courroucé de la jeune ibérique.
« Ne restez pas si près du bord. Je suis responsable de vous.
Vous n'allez pas croire à cette légende. Il n'y a aucun danger. »
« Si. »
Un court silence s'installa, simplement perturbé par les cris des mouettes et le bruissement des vagues. Doucement, le professeur posa sa main sur l'épaule de Paloma pour l'inciter à s'asseoir. L'étudiante frissonna un peu et s'accroupit. Bergton en fit de même.
« Tenez, Bautrelette, une autre question digne de vous. Deux petites choses me tracassent dans l'explication de l'énigme donnée par Bautrelet. Vous vous souvenez le cryptogramme « En aval d'Étretat, la chambre des demoiselles, sous le fort de Fréfossé, l'aiguille creuse ?»
Une nouvelle lueur passa dans le regard de Paloma. Elle posa instinctivement la main sur le genou de Bergton.
Lesquels ?
Tout au début de son raisonnement. Les trois premiers mots qu'il découvre.
Aiguille, creuse et demoiselle ?
Oui. Pour le mot aiguille, il n'y a aucun doute possible, nous sommes d'accord. Par contre, pour demoiselle, le raisonnement de Bautrelet me semble beaucoup plus discutable.
Pourquoi? C'est le seul mot qui convienne, non?
Oui.
Mais pourquoi cette série de voyelles et de points ne formerait-elle qu'un seul mot? Les voyelles et les points des autres lignes forment à chaque fois plusieurs mots. En aval, par exemple, ou sous le fort, ou la chambre des. Donc la série de voyelles et de points qui forment demoiselle, E, O, I, E, E, pourrait signifier bien d'autres choses si on la découpe en plusieurs mots. La certitude de Beautrelet ne tient pas.
Hypothèse très intéressante, professeur. Et la deuxième?
Seuls quatre mots français peuvent être associés à aiguille. Fleuve, creuse, pleure, preuve. Beautrelet, je cite Maurice Leblanc, élimine les mots fleuve, pleure et preuve comme n'ayant aucune relation possible avec une aiguille. Mais l'adjectif creuse, si on ne pense pas à l'aiguille d'Étretat, a-t-il davantage de rapport avec une aiguille?
Paloma ne répondit pas, passionnée par le raisonnement du professeur.
Non, bien entendu, cria presque Bergton. Creuse n'est pas un adjectif plus évident à associer avec aiguille que les trois autres mots. Ça ne veut rien dire de plus. Ici aussi, la certitude de Beautrelet ne tient pas.
Paloma regardait le professeur avec toute l'intensité de ses yeux noirs. Et où voulez-vous en venir?
Si l'on admet que le raisonnement initial de Beautrelet ne tient pas, on peut alors remettre en cause tout le reste.
Et?
Mais c'est évident. On peut imaginer que la solution proposée par Beautrelet dans l'aiguille creuse n'est pas la bonne, qu'il existe une autre façon de déchiffrer le cryptogramme proposé par Leblanc, et que cette autre façon de déchiffrer le code de l'aiguille mène au quatrième trésor, le véritable trésor, celui connu sous le nom de « trésor aux Anglais ». C'est assez fou comme hypothèse, non?
Les yeux de Paloma brillaient davantage encore. Elle continua.
Assez fou, mais cohérent? Une autre façon de lire le cryptogramme de l'aiguille, ça c'est une idée. Pas seulement cohérent, Paloma. Cohérent et évident. Toute l'œuvre de Maurice Leblanc, toutes les aventures d'Arsène Lupin sont truffées de ces doubles lieux, de ces leurres géographiques. Souvenez-vous, le château de l'Aiguille dans la Creuse, prétendument construit par Louis XIV pour détourner l'attention d'Étretat. Une autre aventure de Lupin, la demeure mystérieuse, est entièrement construite sur ce principe. Vous imaginez, Paloma? La plus célèbre énigme d'Arsène Lupin, le fameux cryptogramme de l'Aiguille, contenant lui-même un code secret. Quelle ironie! Quel génie!
Bergton se tut, souriant de contentement devant le regard scintillant de Paloma. Ils redescendirent rapidement vers le village d'Étretat. Roland Bergton consulta sa montre. Midi. Il proposa à Paloma de manger.
« On mange Lupin. On n'a que l'embarras du choix ici. Tout le tourisme du village vit à travers Arsène Lupin. »
Hésitant un instant à entrer dans le restaurant « Le Clos Lupin », ils s'installèrent finalement dans un vaste restaurant baptisé « L'Aiguille Creuse ». À peine après avoir commandé une crêpe complète et une bolée de cidre, Bergton se releva.
« Excusez-moi, Paloma, quelques coups de fil à passer et je reviens. »
Il revint 25 minutes plus tard devant une Paloma dépitée.
« Excusez-moi encore, Paloma, mais il fallait bien que je prépare la suite de nos aventures. »
« J'adore votre romantisme. Taisez-vous maintenant. Mangez et buvez. »
Le professeur avala quelques bouchées de sa crêpe froide. Paloma tenta d'alimenter la conversation.
« J'ai repensé à votre idée. Le double sens du cryptogramme, c'est vraiment une hypothèse lumineuse. »
Bergton hésita un peu devant le regard admiratif de Paloma. Il but une bolée de cidre et se lança. En réalité, je ne suis pas vraiment le premier à avoir eu cette idée. Raymond Lindon, un ami de Maurice Leblanc et ancien maire d'Étretat, a écrit en 1955 un mystérieux petit essai publié sous le titre de « Le secret des rois de France, la véritable identité d'Arsène Lupin ». Il le signe du pseudonyme Valère Catogan. Dans ce livre, lui aussi pense que le cryptogramme de l'aiguille peut se lire autrement que par la solution proposée par Maurice Leblanc.
Paloma se servit à son tour une grande bolée de cidre.
plus que déçue, elle semblait hypnotisée par les révélations du professeur. Et ce Valère Cataugan, il a découvert le double sens du cryptogramme?
Il propose une solution intéressante, mais fausse.
Dites-moi plus.
Pour Valère Cataugan, le cryptogramme est en réalité un papier déchiré. Donc, selon lui, il manque les premières lettres au cryptogramme proposé par Maurice Leblanc. La partie gauche du papier. La longueur inégale des lignes du cryptogramme de l'aiguille renforce son intuition. Partant de la ligne la plus longue, composée de 23 caractères, il imagine qu'à l'origine, toutes les lignes comportaient elles aussi 23 caractères. Il propose alors l'interprétation suivante. On découvre la cassette par la chambre des demoiselles. Dessous le fort de Fréfossé, le blanc était, puis le fleuve.
Paloma ne semblait pas convaincue. Le blanc était, ça ne veut rien dire.
Si. C'est l'ancien nom de la falaise d'Amont, à Étretat. Pour Cataugan, on va de la falaise d'Amont jusqu'à un fleuve souterrain sous la falaise. On découvre alors l'entrée d'un souterrain, bien réel, je vous l'assure, qui mène de la plage vers le donjon, où nous déjeunions tout à l'heure. D'ailleurs, Étretat est truffé de souterrains. C'est une vérité historique. Même si le souterrain de Cataugan, le tunnel du Petit Val, sert aujourd'hui d'exutoire vers la mer pour la station d'épuration d'Étretat.
Paloma se laissa retomber sur sa chaise, dépitée.
Vous m'avez excité pour rien, professeur. Ce Cataugan avait donc tout trouvé avant nous, il y a 50 ans.
Mais non, ne soyez pas stupide. Sa démonstration ne tient pas la route. Pour au moins deux raisons. Tout d'abord, le coup du morceau déchiré du cryptogramme n'est pas digne d'un véritable chasseur de trésors. C'est une astuce pour pouvoir inventer n'importe quelle phrase à la place du cryptogramme. La solution doit s'appuyer sur tout le cryptogramme et rien que le cryptogramme. Maurice Leblanc nous a fourni toutes les pièces et il faut s'en tenir à elle seule. Ensuite, sa traduction n'est guère différente de celle de Leblanc. La ligne 1 n'apporte rien. Les lignes 2 et 3 sont presque identiques à celles de Leblanc. La seule innovation repose sur la quatrième ligne.
Le professeur se resservit une nouvelle bolée de cidre, visiblement fier de son effet.
« Non, Paloma, » continua-t-il. « C'est un sens véritablement différent qu'il nous faut trouver. Et ailleurs qu'à Étretat. Étretat aussi est un leurre.
Selon vous, Valère Cataugan s'est donc trompé sur toute la ligne. Toutes les lignes, devrais-je dire. »
« Presque. Il a tout de même mis en évidence un point extrêmement important. Pour lui, la clé de l'énigme tient dans les relations mystérieuses entre la France et l'Angleterre, favorisées par les passages secrets des falaises vers la mer. Je suis également persuadé que la solution tourne autour de cette relation franco-anglaise. D'ailleurs...
D'ailleurs quoi ?
D'ailleurs, il est temps d'y aller.
Partir à la recherche des passages secrets sous la falaise ?
Tout juste.
Paloma battit des mains comme une petite fille. Ils se levèrent et sortirent rapidement. Ils se retrouvèrent sur le parking de la plage, mais curieusement, Bergton passa devant sa Maserati Spider sans s'arrêter. Paloma se tourna, étonnée, vers le professeur.
« On la laisse là, » fit Bergton d'un air détaché. « Un ami doit venir la chercher. »
Entraînant une Paloma stupéfaite, il se dirigea vers la plage et désigna un bateau de pêche peint d'un jaune vif.
« La Courtine !» Son propriétaire m'a certifié que c'était le bateau le plus rapide d'Étretat.
On prend le bateau ?
Je vous l'ai dit, il nous faut marcher dans les pas de Lupin pour comprendre. Et je vous ai raconté que Lupin s'est échappé de l'aiguille par la mer.
Pour se rendre où ?
À Port-Lupin, bien entendu.
Port-Lupin, bien entendu, mais encore ?
Port-Lupin, la valeuse de Parfonval, entre Dieppe et le Tréport.
Et cela n'aurait pas été plus rapide en voiture ?
Si, sans aucun doute. Mais Lupin a fait le trajet par la mer. Et le propriétaire de ce bateau, la Courtine, m'assure qu'on sera à Port-Lupin avant 16 heures.
Paloma protesta néanmoins.
quelle perte de temps, je croyais que vous étiez pressé. Il est à quelle heure votre avion demain matin ?
7 heures du matin, à Roissy. Vous voyez, tout va bien. Et comme cela, cher génie, vous aurez le temps de vous pencher un peu sur toutes ces énigmes. Le lien entre les 12 châteaux des compagnons de Guillaume, le double sens du cryptogramme de l'aiguille.
Paloma et Roland Bergton n'étaient pas sortis depuis plus de 2 minutes du restaurant L'Aiguille Creuse lorsque le téléphone près de la caisse sonna. Jean-Rémy se hâta de sortir de la cuisine pour répondre. Il ne reconnut pas tout de suite son interlocuteur. Au bout de quelques instants, il comprit.
« Roberto ? Roberto Martinez ? Nom de Dieu, ça fait sacrément longtemps qu'on t'a pas vu traîner sous les falaises. »«
Excuse-moi, Jean-Rémy, je suis pressé. Je te téléphone pour un renseignement précis. As-tu servi un couple à midi ?»«
Plus d'un, heureusement pour mes affaires. » »«
Laisse-moi finir. Un couple. Lui, plutôt âgé, élégant, grand. Elle fait beaucoup plus jeune. »
Toujours aussi mystérieux, Roberto. Pourquoi penses-tu qu'ils étaient chez moi ?
Martinez marqua une pause et reprit.
Ce n'est pas très difficile d'avoir une longueur d'avance sur eux. Alors, tu les as vus ?
C'est bien parce que c'est toi, soupira le restaurateur. Oui, évidemment que je les ai servis. Je ne pouvais pas les manquer. Le vieux a abandonné sa belle toute seule à table les 3/4 du repas. Et le pire, c'est qu'elle buvait encore davantage ses paroles à son retour.
Tu as entendu de quoi il parlait ?
Jean-Rémy hésita. Personne ne pouvait l'entendre. Il répondit en baissant d'un ton.
Je ne sais pas si je devrais te dire, mais... Oui, j'ai écouté. Tu me connais ? Il lui a fait toute la tirade sur Valère Catogan. Les souterrains, les passages secrets sous la falaise, tout le cirque.
Ils sont encore là ?
Non, partis depuis 2 minutes.
Tu sais où ?
Non, mais à mon avis, il va l'emmener en croisière.
À mon avis aussi.
Il marqua un temps d'arrêt avant de conclure.
Hélas pour eux.